je suis ravie de revenir à Nantes. C'est toujours avec plaisir que je reviens à la maison mère. Et du coup, je suis ravie de participer à ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous présenter une communication qui porte sur une des œuvres de théâtre de Lorca, Mariana Pineda, écrite en 1925, et plus que sur le texte en lui-même, en fait, sur les circonstances d'une représentation qui a été organisée à Valence en 1937. Donc, je commencerai cette présentation par aborder quelques éléments de contexte avant de développer les liens entre ce contexte historique et le texte en lui-même pour questionner enfin la notion de dommage, en fait. Hein. Ça en lien avec le concept de dommage. Cette représentation qui a eu lieu en 1937, ça nous emmène au contexte de la guerre civile espagnole. On commémore à ce moment-là le premier anniversaire, déjà, depuis l'éclatement du conflit, et puis presque un an également que Lorca a été assassiné par le camp franquiste. Valence est à ce moment-là devenue capitale républicaine, à plusieurs titres. Tout d'abord, le gouvernement républicain s'y est installé depuis novembre 1936. Et puis ce même gouvernement républicain a lancé une invitation aux intellectuels, les a invités à fuir Madrid pour rejoindre Valence et pouvoir y poursuivre l'exercice, leur exercice professionnel et intellectuel, en tout cas avec plus de sérénité. On a mis à leur disposition des locaux, la Casa de la Cultura, hébergée dans ce qui était l'ancien hôtel Palace. Donc une vie intellectuelle à Valence qui va être importante durant la période du conflit et qui vient s'illustrer par des publications. Je donnerai deux exemples. Les deux exemples de revues, la première Madrid, Cuadernos de la Casa de la Cultura, qui est une édition de... Il y a eu trois numéros en fait de cette revue, qui est une publication précisément des intellectuels hébergés à la Casa de la Cultura. Et en second lieu, Hora de España, publié entre janvier 37 et novembre 38, 23 numéros, dont les premiers numéros ont été édités à Valence précisément. Pour rendre compte du dynamisme de cette vie intellectuelle à Valence, on peut aussi évoquer un autre événement d'envergure qui a été rappelé par M. Lassus, à savoir le second congrès, international des écrivains qui défendent pour la défense de la culture. Donc ce second congrès organisé en 1937 fait suite à une première édition organisée deux ans plus tôt à Paris en juin 1935 et au cours de laquelle Julio Álvarez del Valle représentait l'Espagne. Il y avait présenté une allocution intitulée « La defensa de la cultura » dans laquelle il faisait écho à l'actualité espagnole, à savoir à ce moment-là la révolution des Asturies et la sévère répression qui avait mis fin au mouvement de révolte. À l'issue de ce premier congrès, avait été fondée en avril 1936 l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, association qui a rédigé une résolution en novembre 1936. Je cite: Pedimos que los escritores de todo el mundo comprendan que la lucha del pueblo español no pone solamente en juego el porvenir de un país, sino mejor el porvenir del hombre. Les pedimos que se junten con nosotros y unan las suyas a las voces inquietas que nos llegan de Europa y de América con objeto de ayudar concretamente al triunfo del pueblo español. El secretariado de la asociación confirma la decisión adoptada en el pleno preparatorio de Londres el mes de junio de 1936, en el cual se decidió que el segundo Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura tuviese lugar en Madrid en 1937. Y desde hoy convoca a todos sus miembros para este congreso. Cette résolution est prise en novembre 1936, donc quelques mois déjà après l'éclatement du conflit, et à ce moment-là, loin de rejeter la proposition qui avait été faite quelques mois plus tôt d'organiser le congrès en Espagne, à Madrid, au contraire, cette décision est confortée, l'éclatement de la guerre civile rend maintenant au contraire nécessaire une réaffirmation de cet engagement de vouloir défendre la culture là où elle est mise en péril. Et donc l'organisation de ce second congrès devient de fait un acte politique, comme nous le rappelle Corpus Varga, qui dit la chose suivante: El congreso, sobre todo en Madrid, solo podía ser un acto de guerra. ce que le programme du Congrès vient illustrer. Il y a des axes de travail qui sont développés dans le programme du Congrès qui viennent illustrer cette notion d'engagement des écrivains et des intellectuels. Parmi ces axes, on retrouve les suivants: El papel del escritor en la sociedad o Ayuda a los escritores españoles republicanos. Donc ces premiers éléments en fait vont poser les questions suivantes, à savoir celle de l'art, la fonction de l'art, l'engagement, l'art engagé, l'écriture au service d'une cause, la fonction politique de l'art, etc. Des questions qui vont un peu sous-tendre toute mon étude et qui sous-tendront, on verra ça à la fin de mon exposé, qui sous-tendront l'accueil réservé à la représentation de Mariana Pineda. Cette représentation, je dis bien, elle a eu lieu le jour de l'inauguration du Congrès, 3 juillet 1937, 4 juillet 1937, il y a un doute sur la date en fait, les sources bibliographiques ne se mettent pas d'accord, donc il y a quelque chose à aller vérifier quant à la date, peu importe pour aujourd'hui, je dirais, en tout cas cette représentation a eu lieu le jour de l'inauguration du Congrès au Théâtre Principal de Valence. Et il s'agit là d'un nouvel hommage rendu à Federico García Lorca, assassiné un an plus tôt. Je dis nouvel hommage parce qu'il faut inscrire précisément cette manifestation culturelle dans une série d'hommages qui a déjà été rendue et organisée immédiatement après sa mort. Je vous en donne quelques exemples. Le 4 novembre 1936 a été organisé à Mexico, DFE, un hommage donc organisé par la Liga de Escritores Artistas Revolucionarios. À cette occasion, différentes allocutions ont été prononcées, en particulier celle du Cubain Juan Marinello, Significación de García Lorca, à l'issue de laquelle en complément de laquelle il a édité une anthologie de la poésie lorquienne, dont le produit de la vente a été reversé au Front Populaire en Espagne. Je cite Marinello. Dice, ha querido la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que el homenaje a Federico García Lorca tenga la mejor eficacia, el conocimiento de su obra. Por eso se recoge aquí, muy a la mano del pueblo, algo de lo más valioso y significante del gran poeta de Granada. Ojalá esta incompleta selección lleve hasta la amplia curiosidad despertada por su muerte señales genuinas de su mensaje. Donc là, l'hommage passe par la volonté de rendre visible son œuvre, quelque chose qu'on va retrouver dans le fait d'organiser la représentation de sa pièce Mariana Pineda à Valence. Autre forme d'hommage, alors je ne vais pas insister parce que c'est quelque chose qui a été évoqué, mais cette influence qu'ont eu les événements historiques, son assassinat sur les procès d'écriture et donc la rédaction, par exemple, de poèmes. Alors, ont été cités Nicolas Guillén et Pablo Neruda. Il faudrait ajouter Antonio Machado, Luis Cernuda, pour ce qui est de la poésie. Il y avait un exemple avec Revueltas pour la musique. Bon, c'est très vaste et ça nécessiterait bien sûr une étude approfondie. Outre ces hommages, outre cette influence dans l'écriture, dans le procès artistique lui-même, on peut citer les discours, autre forme d'hommage rendu à Lorca. Les discours, alors celui de Pablo Neruda, retranscrit dans la revue Hora de España en mars 1937, intitulé Federico García Lorca, ou une conférence de Alberti, prononcée 2 ans plus tard, en 1938, homenaje a Federico García Lorca. Ce sont quelques exemples qui viennent illustrer déjà dans les 2 ans qui suivent sa mort une série d'hommages rendus constamment par ses pairs, par le monde des lettres et des intellectuels. En ce contexte, Mariana Pineda, donc, sa représentation est à appréhender comme un nouvel hommage. Nouvel hommage, double hommage à l'œuvre du poète. Double hommage parce qu'on a la représentation de la pièce de théâtre, d'une part, et également la distribution qui a été faite aux personnes qui assistaient à la représentation, qui assistaient à l'inauguration du Congrès, d'un petit livre édité par Emilio Prados, intitulé Homenaje al poeta Federico García Lorca contra su muerte, édité en 1937, qui a été réédité par la suite en 1986 à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Donc, double hommage en ce sens, non ? On rend visible son œuvre par la représentation théâtrale, et la publication comprenait à la fois des textes du poète et des intellectuels qui s'exprimaient sur sa mort. Mariana Pineda a été représentée pour la première fois en 1927, et la pièce s'inspire de la condamnation historique de Mariana Pineda au supplice du Garrot en 1831, pour avoir participé, pour avoir demandé la confection d'un drapeau libéral, défiant par la même l'autorité du roi absolutiste Ferdinand VII. C'est un événement historique sur lequel s'appuie Lorca pour développer son processus de création artistique, quelque chose qu'on retrouve dans Boda de Sangre. Le crime de Níjar va aboutir au développement de l'intrigue Boda de Sangre. Si l'événement historique sert de point de départ, en fait, il est transcendé rapidement par le processus de création, chose qui a été analysée, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, qui a été analysée par Beatriz Domínguez Hermida. Donc Mariana Pineda, sous la plume de Lorca, devient héroïne lorquienne. Héroïne lorquienne, je cite Luis Martínez Quitiño. Donc une Mariana revisitée par Lorca, moins animée dans l'œuvre par ses convictions politiques que par l'amour qu'elle porte à Pedro de Sotomayor, l'homme qui défend des convictions libérales et pour lequel elle se sacrifie au nom de la liberté. Ça me permet de faire une référence à la communication de Madame Bourlieu, puisque Lorca présentait Mariana Pineda comme « una Julieta sin Romeo », référence à la quête de l'amour, amour impossible, etc. Donc, voilà quelques éléments sur l'œuvre qui m'emmènent à entrer un peu plus dans le texte et à mettre en lumière les éléments du texte de la pièce avec les éléments de contexte que j'ai évoqués dans la première partie de cet exposé. La représentation de 1937 a été mise en scène par Manuel Alto Laguerre. Parmi les acteurs, on compte Carmen Anton, Blanca Chatel, Maria del Carmen, Lasgoiti, actrice de la Barraca, et Luis Cernuda, qui est monté sur les planches pour incarner Pedro. Les décors ont été réalisés par Victor Maria Cortezo. Précisément, ces deux hommes-là, Luis Cernuda, Victor Maria Cortezo, nous ont livré des témoignages sur un petit peu les circonstances de l'organisation de cette représentation. Luis Cernuda évoque le financement de cette représentation. On est en contexte de guerre, il n'est pas si aisé d'organiser un événement culturel. Donc Luis Cernuda nous rappelle qu'ils ont pu bénéficier d'un financement large, très large, de la part du gouvernement républicain et du ministère de l'instruction publique. Donc c'est un événement subventionné, largement subventionné. Victor Maria Cortezo, en charge des décors, lui évoque l'obtention d'un laissez-passer qui lui a permis d'aller récupérer des éléments de décor dans les villas, les résidences qui avaient été réquisitionnées. Donc voilà, ceci nous permet d'avoir un petit peu une image sur les circonstances de la préparation de cette représentation. Et l'œuvre, son propos fait alors écho, ou peut faire écho, à la fois aux circonstances de la mort de Federico García Lorca, et aux circonstances contemporaines, celles de la guerre civile. En tout cas, on peut être tenté, pour le moins, d'appréhender le texte lorquien à la lumière des événements contemporains, qui sont ceux que connaît Valence en 1937. Je cite ici Luis García Montero, dans un article que j'ai omis de citer en bibliographie dans le livret qui vous a été donné, mais qui mérite d'être mentionné, qui s'intitule « La palabra de los muertos » et qui a été publié cet été dans los cuadernos panamericanos. Dice lo siguiente: «La sacudida de la guerra civil y la ejecución de Federico García Lorca provocaron de forma mucho más rotunda la lectura política de Mariana Pineda». Fait qui se confirme et que l'on va essayer de développer en mettant en évidence les éléments, les parallélismes qui peuvent s'établir entre le texte, l'intratexte et le contexte. Il faut évoquer tout d'abord les similitudes de destin entre Mariana Pineda et Federico García Lorca. sans doute les plus évidentes. En premier lieu, la conscience du danger encouru. Pour Mariana, l'héroïne, qui a dans la pièce brodé elle-même le drapeau libéral, toutes les didascalies des deux premiers actes, las dos primeras estampas, rendent compte de cette inquiétude, jusqu'à la formulation de la phrase suivante, « Tengo mucho miedo de morirme sola aquí », phrase qu'elle adresse à Fernando dans le premier acte, et qui peut faire écho à la peur que le poète avait de la mort et qui a été évoquée hier. Deuxième parallèle qui peut s'établir entre le destin de l'héroïne d'une part et du poète d'autre part, c'est en lien avec la condamnation. L'héroïne se sait condamnée, sa mort est inéluctable face à son refus de céder à la pression de Pedro Saint, qui l'enjoint de donner le nom de ses complices libéraux, chose qu'elle va refuser catégoriquement et qui vont l'amener à sa condamnation. Hier ont été évoqués un petit peu les derniers jours de Lorca. Finalement, une fois arrêté, on voit que suite au processus d'arrestation, sa mort est inéluctable. On peut de nouveau établir ce parallélisme. Second parallélisme qu'on peut proposer ici, c'est le lien qu'il peut y avoir entre le texte de la pièce et les circonstances de la guerre civile à Valence à ce moment-là. Ce qui peut être mis en évidence, c'est l'impossibilité du compromis. On se retrouve dans tous les cas dans une situation de conflit dans lequel deux forces sont opposées, deux forces irréconciliables. Les absolutistes et les libéraux dans la pièce, les franquistes et les républicains dans le contexte de la guerre civile. C'est encore à l'image de l'étau qui se resserre qu'on peut faire allusion. L'image de l'étau, elle est signifiée dans la pièce par cette tension entre l'intérieur et l'extérieur, en particulier dans les deux premiers actes. Les deux premiers actes se déroulent au domicile de Mariana, très inquiète de ce qui se passe à l'extérieur, très inquiète de ce qui s'y passe. Elle attend une lettre qui doit arriver de l'extérieur. Elle attend l'arrivée prochaine de ses complices libéraux et parmi eux de Pedro Sotomayor. Et elle sent le poids de la menace de l'arrestation de ses camarades, de sa propre arrestation, et le poids de la menace de la répression. Donc tout ça, ça a été mis en évidence par Luis Martinez Huitiño, qui fait référence à cette tension de la fuera et de l'intérieur. On peut retrouver ça à Valence, hein, cette même image de l'étau qui se resserre. Il ne faut pas oublier que le gouvernement républicain a reculé de Madrid à Valence pour se mettre à l'abri et que, à partir de là, le camp franquiste gagne du terrain, que la Catalogne est un des derniers bastions républicains. Donc cette image de l'étau, elle trouve à s'appliquer aussi dans le contexte de la guerre civile. J'ouvre une petite parenthèse, c'est une image qu'on va retrouver dans pas mal d'écrits. Et là, je vais juste donner un exemple pour illustrer mon propos. Celui d'un article de Max Aube, publié dans la revue Hora de España, un article qui s'intitule Actualidad de Cervantes, dans lequel il commente la pièce Numancia de Cervantes. Même image du siège, l'image de l'étau, on est bloqué, suicide, résignation, condamnation, suicide accepté de la population qui refuse de se rendre. Donc c'est une image très très forte qu'on va retrouver à différents niveaux, y compris sous la plume de Max Hoppe. Dernier parallélisme enfin qu'on peut établir en lien déjà avec la mémoire collective. La pièce s'ouvre et se clôt avec des vers un romance. Romance qui va évoquer la mémoire de Mariana Pineda, non, avec un vers en particulier qui ouvre la pièce. Oh, que día tan triste en Granada que a las piedras hacía llorar. Ce vers, prononcé dans le contexte de 1937, je pense que les résonances excèdent le cadre strict de l'histoire de Mariana Pineda. Donc un cœur qui vient, c'est un cœur de fillette qui prononce ce romance, qui vient incarner une sorte de mémoire populaire, hein, la, la, la présence de cet événement historique passé à la mémoire populaire. Le parallèle ici fait avec Lorca, je peux de nouveau évoquer la série d'hommages qui peut aussi faire référence à ce l'héritage de Lorca et sa présence déjà dans ce qu'on peut appeler la mémoire collective. Au-delà des parallélismes qu'on peut établir, il convient d'évoquer également la réception de la pièce. Précisément, ces parallélismes que j'ai abordés en fait vont avoir des conséquences sur la réception de cette représentation. L'accueil de cet hommage théâtral a été, mitigé. Il y a des évocations d'articles de presse dans lesquels on rencontre plutôt d'un bon accueil. Alors un article de El Mercantil Valenciano, bon accueil. Accueil beaucoup plus réservé, par contre, sous la plume de Lorenzo Varela, dans un article du 9 juillet 1937 intitulé Mariana Pineda, dans lequel il a critiqué ouvertement le jeu des acteurs, sub quietismo, el quietismo de los actores. Une critique sévère qui a trouvé sa réponse, à laquelle a répondu Ramon Gaya, qui a rédigé en réponse à cette critique un article intitulé Representación de Mariana Pineda, publié dans Hora de España, et article dans lequel il va soutenir la représentation. C'est-à-dire contredire ce qui a été défaire les objets de critique qui ont été évoqués dans l'article de Varela et affirmer son soutien à l'initiative de Manuel Alto Laguerre et au jeu des acteurs. Il évoque, pour commencer, le fait que les acteurs sur scène, anciens acteurs de la Barraca ou la présence de Luis Terlinda, sont en soi des choses à souligner, sont en soi des choses à ce ne sont pas des actes anodins. Donc en soi, l'hommage, c'est déjà un premier très significatif de l'hommage. Toujours pour illustrer cet accueil un peu réservé, il y a déjà des dissensions qui sont apparues, on peut s'appuyer également sur des déclarations postérieures de Manuel Alto Laguerre, qui fait part, alors regret, le mot est un peu fort, mais qui fait part un petit peu de ses déceptions, non, enfin, en tout cas de son insatisfaction à l'issue de cette représentation. Il dit la chose suivante: Yo ya intenté hacer algo, seguramente mal y antes de tiempo, a pesar de la generosa atención del Ministerio de Instrucción Pública y de su Dirección de Bellas Artes. Donc la chose qu'il met en avant, c'est que sans doute ce n'était pas le meilleur moment. Sans développer davantage. Donc également un metteur en scène qui fait part à demi-mot de ses regrets à l'issue de cette représentation. Pourquoi un accueil si mitigé ? Alors c'est également un aspect à approfondir, enfin qui nécessite en tout cas une étude plus approfondie. Mais il faut mettre tout ça en évidence avec des causes politiques. Avec une lecture politique du texte. Une lecture politique que Lorca avait explicitement rejetée dans des déclarations au moment de la rédaction du texte. Je vous fais part d'une citation qui date de 1924, dans laquelle il disait la chose suivante: El éxito de la obra me ha convencido de que no es ni debe, como quisiera don Fernando de los Ríos, ser político, pues es una obra de arte puro. Una tragedia hecha por mí, como sabéis, sin interés político. Y yo quiero que su éxito sea un éxito poético. À l'époque, 1924, de nouveau, il faut faire allusion au contexte, Miguel Primo de Rivera au pouvoir, la représentation de Mariana Pineda peut faire évidemment écho au contexte actuel, avec non plus une opposition libéro-absolutiste, mais une opposition entre... je ne sais pas comment les appeler du coup, mais dictature, opposition à la dictature. Une opposition de cet ordre-là. Donc on retrouve ça. Chose que Lorca avait refusée, explicitement. Je veux devoir le succès de cette pièce à sa réussite poétique, uniquement. Bon, on voit qu'en 1937, cette lecture n'a plus lieu d'être, en fait. On est évidemment dans une lecture politique. On est évidemment dans une lecture politique et on va avoir aussi des déclarations dans lesquelles on va voir que il n'y a pas d'unanimité autour de la nature de l'hommage. Ce qu'on peut observer, c'est une désolidarisation de quant à l'initiative de Manuel Alto Laguerre. Luis García Montero, dans son article, évoque ainsi une nouvelle représentation alternative de Mariana Pineda le 15 juillet, quelques jours plus tard, à l'initiative de la troupe théâtrale La Carátula, Teatro Proletario. Non content de la représentation et du ton de la pièce, en fait, on propose une nouvelle représentation plus en phase avec le discours politique à mener, plus en phase avec cet acte militant que devient la représentation. Et dans une note anonyme publiée dans Il Mercantil Valenciano, on peut lire la chose suivante, au sujet de l'activité de la barraca cette fois. La barraca continúa actuando en los frentes del centro, ainsi que s'intitule l'article. Nos interesa hacer constar que ningún elemento artístico de la barraca ha cooperado directa ni indirectamente en la pasada representación de Mariana Pineda ni en ninguna otra actividad del Teatro García Lorca que dirige Manuel Alto Laguerre. Désolidarisation complète, on évoque parfois le fait que Manuel Alto Laguerre ait été écarté en fait, hein, suite à l'organisation de cette représentation. Il faut y voir bien évidemment des causes politiques qu'on va retrouver dans les témoignages postérieurs de Martín Cortezo et de Cernuda. Des témoignages qu'il livre bien plus tard, mais qui font écho à ces tensions politiques qui régnaient au sein du camp républicain. On est à l'été 37. Bon, voilà, ça peut. Les événements de mai à Barcelone ne sont pas si loin. Ce sont des choses qui ont vraiment divisé le camp républicain. Je terminerai donc sur ces mots. En fait, il y a au sein du monde des lettres, évidemment, une unanimité quant à la condamnation de l'assassinat de Lorca. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. L'unanimité aussi quant à la nécessité de l'hommage. Mais dès qu'on entre dans l'hommage, à ce moment-là, on observe des dissensions, on note des dissensions patentes. Hein. J'en ai donné quelques exemples. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas d'unanimité quant au message politique que l'on peut associer à cette représentation et pas d'homogénéité en tout cas. C'est quelque chose qui est très patent. En lien avec l'hommage, et si l'hommage apparaît comme nécessaire, mais qu'une fois l'hommage produit là, sous la forme d'une représentation théâtrale, on observe de telles dissensions, ceci nous amène à interroger déjà la construction d'une mémoire collective. Comment le souvenir de Lorca, de son œuvre, va être appréhendé par ses contemporains et par la postérité. Donc ça, c'est une question qui se pose déjà en 1937 et dont on retrouve des échos dans l'actualité, hein, cette difficulté à construire une mémoire collective apaisée, mais finalement, en fait, dès les premiers hommages rendus à Lorca, c'est quelque chose qui est très très patent et que la représentation de Mariana Pineda que j'ai voulu évoquer avec vous venait présenter. Je vous remercie.
Merci. Alors on va passer à Madame Palacios. Je vais vous présenter. Alors, Madame Palacios se ha dedicado al estudio de la poesía mexicana de los siglos 19 y 20, con especial atención a la escrita por mujeres y particularmente a la obra de Enriqueta Ochoa. Es autora, entre otros libros, de Salvedades, Los espacios pródigos y El crisol de las sorpresas, coordinadora de Creadores Veracruzanos, 10 semblanzas y coautora de Veracruz, Dos siglos de poesía. Ha publicado varios libros de narrativa para niños. En 2011 recibió el Premio Nacional Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor por su diario de una madre mutilada. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora y catedrática de la Universidad Veracruzana desde 1979, mismo que en 2012 le otorgó el premio al decano. Desde septiembre de 2013 es directora general de difusión cultural de su alma mater.
Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar en este congreso sobre Federico García Lorca. Un poco, decimos en México, colada, es decir, no soy especialista en poesía española, no soy especialista en Lorca, pero soy lectora de Lorca desde niña. Aprendí a leer, a veces con mi padre leía desde los 7 años a la generación del 27 y sobre todo a García Lorca. Agradezco muchísimo a Jean-Marie Lassou que me dé la oportunidad de estar aquí y por supuesto a todos los organizadores de este hermoso coloquio que me permiten pues escribir sobre este poeta al que tanto admiro. Y traté de llevar agua a mi molino, porque para hablar de Lorca encontré desde hace tiempo, no para hablar de Lorca, sino hablando de una poeta desconocida, muy poco conocida en México, que es esta mujer militante comunista, maestra de primaria en las primeras décadas del siglo XX en México, en los 30s, 40s. Encontré esta relación con Lorca desde hace varios años y bueno, esto me permitió, y tengo algún trabajo sobre esta poeta poco conocida que escribió como Lázara Meldiú y que se llamó María de la Luz Lafarja. Voy a dar bueno, y encontré también desde entonces, o traté de construir una hipótesis, cómo es que Lázara Meldiú, es por qué está